Bon, on va commencer notre cinquième leçon dans notre série sur le péché, les 10 commandements et la grâce. Aujourd'hui, nous allons voir la conséquence du péché. Alors, bien entendu, la chute de l'homme dans le péché a entraîné de très sérieuses conséquences. On va en nommer plusieurs. La première, l'insensibilité spirituelle. Dans les Écritures, on parle de l'insensibilité des oreilles, l'insensibilité des yeux et l'insensibilité du cœur, comme on peut le voir dans Actes 28, verset 27. « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Donc, première conséquence, l'insensibilité spirituelle. Deuxième conséquence, l'obscurcissement et l'endurcissement. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Troisième, la corruption, Exode 32, verset 7. L'Éternel a dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. » Bien entendu, quand on nomme les versets comme ça, on en nomme un ici et là pour donner un représentatif, mais il y en aurait beaucoup plus que ceux qui ont été mentionnés. Alors, quatrième, la déviation de la voie divine. Ésaïe 53, verset 6, « Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Cinquième, la poursuite du charnel. Romains 8, versets 6 et 7. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Sixième, le rejet des choses authentiquement spirituelles. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Je pense qu'on est rendu à septième. La nuisance volontaire à sa propre âme. Proverbe chapitre 8, verset 36, « Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Un autre, l'empoisonnement du langage, Romains chapitre 3, verset 13 et 14, « Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. » Quand on regarde comme faux Romains 3, 13, 14, on parle du gosier, de la langue, des lèvres et de la bouche. C'est vraiment tout ce qui sort de nous par cette partie du corps-là. L'appauvrissement de la force du travail de l'homme. Proverbe chapitre 21, verset 25. « Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. » Alors, il y a en l'intérieur de chaque homme une partie de paresseux, et ce qui fait en sorte que, dans le fond, on parle de l'appauvrissement de la force de travail à cause du fait qu'on est paresseux. Il y a beaucoup de choses qui sont négligées, mal faites, mal conçues, mal élaborées, et on pourrait allonger la liste. La mort dans l'âme de l'homme. Romains 5, 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Autre, la privation du confort de la maison divine. Alors, on a ici le passage de Luc 15, quand on parle de l'enfant prodigue. « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort, qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Et la dernière, la mise sous le pouvoir du diable, Éphésiens 2, verset 2. Vous étiez morts, versets 1 et 2, c'est-à-dire vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, après avoir donné ces conséquences-là, on va regarder un petit peu plus en détail dans quelle partie, quelles sont les conséquences, mais en les examinant sous des angles différents. Donc, les conséquences du premier péché d'Adam peuvent être considérées sous trois sous-titres suivants. La corruption, la culpabilité et la peine. Alors, on va commencer par la première conséquence, une des conséquences du péché, la corruption. Alors, qu'est-ce que ça signifie, la corruption? Alors, la signification, c'est le fait que l'homme n'a plus sa justice originelle, ni de saintes affections à l'égard de Dieu, que sa nature morale est corrompue et qu'il est porté au mal, c'est ce que nous appelons la corruption. Les Écritures et l'expérience humaine témoignent toutes deux de son existence. L'enseignement des Écritures selon lequel tous les hommes doivent naître de nouveau montre l'universalité de l'existence de la corruption. Maintenant, on sait qu'on vient de la définir, mais quelle est l'ampleur de la corruption? La Bible parle de la nature humaine comme étant entièrement corrompue. La doctrine de l'entière corruption, ou en anglais « total depravity », c'est la même chose, est cependant souvent mal comprise et mal interprétée. Il est important de savoir ce qu'elle ne veut pas dire et ce qu'elle veut dire. Du côté négatif, elle ne veut pas dire que tout pécheur est dénué de toute qualité aimable, qu'il commet toute forme de péché, ou qu'il est aussi âprement opposé à Dieu, qu'il est possible pour lui de l'être. Jésus a reconnu l'existence de qualités aimables chez certains individus, par exemple dans Marc 10, 21. Il a dit aussi que les scribes et les pharisiens faisaient certaines choses exigées par Dieu, dans Matthieu 23, 23. Paul aussi a affirmé que certains païens font naturellement ce que prescrit la loi, en Romains 2, 14. Dieu a dit à Abraham que l'iniquité des Amoréens empirerait, Genèse 15, verset 16, et Paul a dit que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 13. Du côté positif, elle signifie que tout pécheur est entièrement dépourvu de cet amour pour Dieu qui constitue l'exigence fondamentale de la loi. On pourrait lire cela dans Deutéronome 6, versets 4 et suivants, et aussi Matthieu 22, 37. Aussi qu'il est enclin à un suprême degré à se préférer lui-même à Dieu, comme on peut le lire dans 2 Timothée chapitre 3, versets 2 et 4. Qu'il a aussi une aversion pour Dieu, qui se transforme en inimitié contre lui, en Romains 8, 7. Que ses facultés mêmes sont déséquilibrées et corrompues, on peut le lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 18. Qu'il n'a aucune pensée, sentiment ou acte que Dieu puisse pleinement approuver, Romains 7, verset 18, et qu'il progresse constamment dans la perversité et qu'il ne pourra pas s'en détourner par ses propres forces, Romains 7, verset 18. La corruption s'est infiltrée dans l'homme tout entier, son corps, son langage, son intelligence, ses émotions et sa volonté. La corruption a produit chez le pécheur une impuissance spirituelle totale, dans le sens où il ne peut pas, par sa propre volonté, changer son caractère et sa vie de manière à les rendre conformes à la loi de Dieu, ni changer sa préférence fondamentale pour le moi et le péché en un amour suprême pour Dieu. Il ne peut pas, par sa propre volonté, se régénérer lui-même, ni se repentir, ni manifester la foi qui sauve. Mais la grâce et l'Esprit de Dieu sont prêts à le rendre capable de se repentir et de croire à salut. Chaque partie de la nature de l'homme a été placée sous la domination du péché. L'homme, dans son péché, est comparé Alors, ça, j'ai trouvé ça dans un livre de théologie, je trouvais ça intéressant, parce qu'il parle du péché, il compare l'homme dans son péché à des animaux. Mmh. Et c'est pas très flatteur de se faire comparer à cela. Alors, il compare l'homme dans son péché à un serpent pour son venin. Psaume 140, verset 3. Ici, il parle des hommes. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leur langue un venin d'aspic. Il compare aussi à un âne pour l'entêtement. Job 11, verset 12. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Un autre, un ours, pour sa brutalité. Daniel 7, verset 5. Et voici, un second animal était semblable à un ours. Il se tenait sur un côté, il avait trois côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Alors, on parle d'un royaume, dans Daniel 7, c'est une prophétie qui parle d'un royaume qui viendra, et on compare ce royaume-là à l'agissement d'un ours. Donc, c'est brutal. Alors, on peut voir dans l'histoire humaine la réalité de cela. Compare aussi à la sauterelle pour sa destructivité. Alors, Joël 2, 25, le Seigneur dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Alors, quand arrivait une armée de sauterelles, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans des films, en télévision, quand ça arrive, là, ça détruit complètement toute végétation. C'est comme si ça brûlerait, ça détruit complètement. Alors, le Seigneur il compare que le péché fait l'effet de ça dans la vie. Compare aussi à un chien. Et dans les Écritures, un chien, ce n'est pas un compliment. Un chien pour son impureté, Proverbe 26, verset 11. « Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. » Un dragon pour la frayeur. Ça, c'est dans l'Apocalypse. « Et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Un renard pour la ruse. Les pécheurs sont rusés. Luc 13, versets 31-32. « Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, « Allez et dites à ce renard, « Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'aurai fini. » Un léopard pour sa férocité, Daniel 7, verset 6. « Après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes, comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. » Alors, bien souvent, on interprète cela dans Daniel comme étant Alexandre le Grand, que quand il détruisait et il était très rapide. C'est pour ça qu'il disait, il y avait un léopard et il avait quatre ailes comme un oiseau. Alors, la conquête par Alexandre le Grand a été, justement, c'était féroce puis c'était rapide. Alors, c'est pour ça que le Seigneur avait utilisé l'image du léopard. Aussi, le lion pour sa voracité. Psaume 22, verset 13. Ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui rugit, qui déchire et rugit. Une teigne pour sa fragilité. Job 27, verset 18. Sa maison est comme celle que bâtit la teigne, comme la cabane que fait un gardien. Alors, on voit que dans le fond, il parle que dans le fond, tout ce que fait le pécheur, ça a l'air bien beau, mais ça finit toujours par s'écrouler. C'est pas solide, c'est comme une toile d'araignée. Une brebis pour sa stupidité. Jérémie, chapitre 50, verset 6. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leur bercail. Alors, une des caractéristiques des brebis, c'est que ça suit. Ça suit, mais ça ne suit pas toujours dans le bon sens. Si ça suivrait toujours dans le bon sens, ça serait une bonne chose. Une toile d'araignée pour son manque de solidité. Isaïe 59, verset 5. Il couvre des œufs de basilic et il tisse des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt et si l'on en brise un, il sort une vipère. Une truie pour sa saleté. 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Alors ici, on est vraiment dans le contexte de 2 Pierre, c'est que les pécheurs qui sortent pour un temps du péché, mais vu qu'ils ne sont pas vraiment régénérés, ils retournent un peu comme le chien retourne à sa vomissure et la truie retourne à se vautrer dans le bourbier. Alors, elle se roule dedans, elle aime tellement ça. Une vipère pour son poison. Jésus ici parle, il dit aux pharisiens, « Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? » Et, dernier animal, un loup pour sa cruauté. Jean 10, verset 12, « Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. » Alors, souvent, dans les Écritures, on parle souvent des faux enseignants, des faux prophètes comme étant des loups. Deuxième chose qu'on regarde comme conséquence du péché, la culpabilité. Le fait que l'on considère la culpabilité après la corruption ne veut pas dire qu'elle ne vient que par la suite. Ces deux conséquences affligent l'homme simultanément, comme conséquence au pluriel de la chute. Dans une discussion sur la culpabilité, il faut considérer sa signification et les degrés de culpabilité. Alors, on va commencer par la signification. La culpabilité signifie une condamnation méritée ou l'obligation de satisfaire Dieu. La sainteté de Dieu, comme nous le montrent les Écritures, réagit contre le péché, c'est ce qu'on appelle la colère de Dieu. Romains 1, verset 18. Mais la culpabilité n'est encourue que pour une transgression consciente, soit de la part de l'humanité en Adam, soit de la part de chaque personne individuellement. La culpabilité provient d'un péché dans lequel nous avons joué un rôle. En tant que souillure, le péché est un manque de conformité au caractère de Dieu. Mais en tant que culpabilité, c'est une opposition à sa sainte volonté. Ces deux éléments sont toujours présents dans la conscience du pécheur. La culpabilité est aussi une conséquence directe du péché, car tout péché, de quelque nature qu'il soit, est une offense contre Dieu et est sujet à sa colère. Il ne faut pas confondre cela avec la conscience subjective qu'on en a. Alors nous, parfois, on a tendance à voir le péché de façon légère, mais ce n'est pas ce que Dieu voit. Alors nous, notre façon de voir le péché et la façon que Dieu le voit, ce n'est pas la même chose du tout, du tout, du tout. Le péché a premièrement rapport à Dieu et ensuite à la conscience. Dans la conscience, la condamnation de Dieu se manifeste elle-même en partie et de façon prophétique. La persistance et le progrès dans le péché seront caractérisés par une sensibilité réduite du discernement et des sentiments moraux. Alors, on va parler maintenant des degrés de culpabilité. La Bible reconnaît différents degrés de culpabilité provenant de différentes sortes de péchés. Ce principe est reconnu dans l'Ancien Testament par la variété des sacrifices exigés pour différentes transgressions de la loi mosaïque. On a ça dans les chapitres 4 à 7 de Lévitique. Il est également indiqué par la variété des jugements dans le Nouveau Testament. L'Église catholique romaine a cependant mis sur pied une fausse distinction entre les péchés véniels et les péchés mortels. Les péchés véniels sont ceux qui peuvent être pardonnés, tandis que les péchés mortels sont ceux qui sont volontaires et délibérés et entraînent la mort de l'âme. En face de tout cela, nous pouvons cependant remarquer les véritables différences de culpabilité résultant de différences dans les péchés. Il y a au moins 4 groupes de péchés qui s'opposent. Les péchés de nature et les transgressions personnelles. L'homme est pécheur par nature et aussi par action. Il y a une culpabilité due au péché inné. Et il y a une plus grande culpabilité lorsque la nature pécheresse pousse l'homme à commettre des actes de transgression personnelle. Les paroles du Christ, Il dit « Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » En parlant des enfants, il parle de l'innocence relative de l'enfance, tandis que ses paroles adressées aux scribes et aux pharisiens « Comblez donc la mesure de vos pères » font allusion aux transgressions personnelles ajoutées à la corruption héritée de leurs ancêtres. Autre catégorie, les péchés d'ignorance et les péchés de connaissance. La culpabilité est ici déterminée par la quantité d'informations que possède l'individu. Plus la connaissance est grande, plus la culpabilité est grande. Et là, on a toute une série de textes, Matthieu 10, 15, Luc 12, 47 et suivants, Luc 23, 34, Romains 1, 32, Romains 2, 12, 1 Timothée, verset 1, verset 13 et 16. Les péchés de faiblesse et les péchés de présomption. Le degré de force de volonté indique ici le degré de culpabilité. Le psalmiste a prié d'être préservé des péchés de présomption. Psaume 19, verset 14. Et Ésaïe a parlé de ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme avec les traits d'un char. Ésaïe 5, 18. Ce sont ceux qui s'adonnent sciemment et définitivement au péché. D'un autre côté, Pierre, dans son reniement du Christ, illustre le péché de faiblesse. Il est tombé en dépit de sa détermination à résister. Et aussi les péchés résultant d'un manque complet ou incomplet de sensibilité. Le degré auquel l'âme s'est endurcie est devenu insensible aux offres répétées de la grâce de Dieu, détermine ici le degré de culpabilité. Une âme peut se détourner de l'amour de la vérité et devenir complètement insensible aux incitations de l'esprit. Il y a une multitude de versets qui parlent de ça, 1 Timothée chapitre 4, verset 2, Hébreux 6, verset 4 à 6, et verset 10, et 2 Pierre 2, verset 20 à 22, 1 Jean 2, verset 19, verset, chapitre 5, verset 16. Une troisième conséquence du péché, la peine, bien entendu. Donc, on a la corruption, on a la culpabilité et on a la peine. Bien qu'il soit vrai jusqu'à un certain point que les conséquences naturelles du péché constituent une partie de la peine du péché, nous devons cependant nous rappeler que la peine entière est d'une nature différente. La corruption et la culpabilité, en tant que conséquence du péché, pèse dès maintenant sur l'humanité, mais la peine dans sa totalité est réservée à un jour futur. Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est que la culpabilité et la corruption, on l'a déjà sur la terre, et tandis que la peine, on en a une partie, mais la plus grosse partie est à venir. Alors, la signification de la peine. La peine est cette perte ou douleur infligée directement par le législateur pour défendre sa justice, qui a été outragé par la violation de la loi. Cela implique et inclut les conséquences naturelles du péché, mais celles-ci ne constituent nullement la totalité de cette peine. Dans toute peine, il y a un élément personnel, c'est-à-dire la sainte colère du législateur, et cela n'est que partiellement exprimé par les conséquences naturelles. À la lumière de cela, il est facile de voir que la peine n'a pas essentiellement pour but d'entraîner la réforme du contrevenant. Il y a une différence entre la discipline et la condamnation. La discipline provient de l'amour, de l'amour et elle a pour but de corriger. Comme le Seigneur dit qu'il nous corrige, mais la condamnation procède de la justice et n'a donc pas pour but de réformer le contrevenant. Elle n'a pas non plus principalement pour but d'avoir un effet de dissuasion et de prévention, bien que ce soit parfois ce qui se produit, car il n'est jamais juste de punir un individu simplement pour le bien de la société. La punition ne servira d'ailleurs à rien de bon, à moins que la personne punie ne l'ait mérité. La punition infligée par la loi n'est pas une discipline ni un remède, mais une simple rétribution. Ce n'est pas un moyen, mais une fin en soi. On ne corrige pas un meurtrier en le condamnant à mort. Il reçoit cependant une juste rétribution pour son geste. Alors, les Saintes Écritures nous rappellent que la peine capitale est un mandat divin, comme on peut le lire dans Genèse chapitre 9, versets 5 et suivants. Maintenant, on a vu la signification de la peine. On va regarder maintenant le caractère de la peine. Il ne faut qu'un seul mot pour énoncer la peine du péché. Et ce mot nous est donné dans la Bible. La mort. C'est une triple mort. Physique, spirituelle et éternelle. On va regarder la mort physique en premier. La mort physique est la séparation du corps et de l'âme. Elle est présente dans les Écritures comme faisant partie de la peine du péché. C'est la signification la plus naturelle de Genèse 2, 17, Genèse 3, 19, Nombre 16, verset 29, et Nombre 27, verset 3. La prière de Moïse, dans le psaume 90, verset 7 à 11, et aussi celle d'Ézéchias, dans Ésaïe 38, verset 17 et suivant, reconnaissent le caractère pénal de la mort physique. La même chose est vraie dans le Nouveau Testament. Alors, j'ai mis un paquet de versets que vous pourrez aller voir. Pour le chrétien, la mort n'est toutefois plus une peine, puisque Christ a souffert la mort comme peine du péché. Pour lui, le corps dort attendant la résurrection et l'âme absente du corps entre consciemment dans la présence du Seigneur. Alors, une des conséquences, bien sûr, pour la peine, c'est la mort physique. La mort spirituelle est la séparation de l'âme d'avec Dieu. La peine proclamée en Éden et qui a été infligée à toute la race, c'est principalement cette mort de l'âme. On peut lire dans Genèse 2, 17, Romains 5, 12, Éphésiens 2, versets 1 et 5. Par elle, l'homme a perdu la présence et la faveur de Dieu, de même que la connaissance et le désir de Dieu. À cause de cela, il a besoin de passer de la mort à la vie, parce qu'on parle comme étant complètement mort, on n'a plus de communication avec Dieu. Alors, la mort spirituelle, tous les hommes qui naissent sont morts spirituellement. Et il faut que l'Esprit de Dieu, par la régénération ou la nouvelle naissance, les amène à leur redonner la vie spirituelle. Et la troisième, et non pas la moindre, c'est vraiment la mort éternelle. La mort éternelle est simplement l'aboutissement et la pleine réalisation de la mort spirituelle. C'est la séparation éternelle de l'âme d'avec Dieu, ainsi que le remords et la condamnation qui l'accompagne. Alors, on a beaucoup de passages dans les Écritures qui parlent de ça. Matthieu 10, verset 28, Matthieu 25, verset 41, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, Hébreux 10, verset 31, Apocalypse 14, verset 11, et on pourrait allonger la liste. Alors, les trois principales, la mort physique pour la peine, la mort spirituelle et la mort éternelle. Quelles sont les applications qu'on peut faire du texte, de cette brève étude des conséquences du péché? Prions le Seigneur de nous révéler la profondeur et l'étendue de notre corruption. Nous connaîtrons ainsi notre misère, notre fragilité et notre faiblesse. Le résultat sera que nous aurons pour réflexe de mieux dépendre de Dieu en tout temps. Plus on va connaître notre corruption, plus on va avoir le réflexe de dépendre de Dieu. Deuxièmement, la culpabilité signifie une condamnation méritée ou l'obligation de satisfaire Dieu. En tant que souillure, le péché est un manque de conformité au caractère de Dieu, mais en tant que culpabilité, c'est une opposition à sa sainte volonté. Troisièmement, la peine du péché est expérimentée par tous les hommes dès la vie terrestre, la mort physique et la mort spirituelle. Cependant, la peine la plus grave, soit la mort éternelle ou l'enfer, ne sera expérimentée que par les pécheurs qui n'auront pas reçu la grâce de Dieu. Cette terrible réalité qu'est l'enfer devrait nous inciter à une évangélisation plus active et à une vie de prière plus fervente et plus persévérante. Devrait aussi nous inciter à combattre le péché avec beaucoup plus d'authenticité et de vigueur. Louons l'Éternel pour sa sainteté, sa justice, sa grâce et sa miséricorde. Amen. Amen.